L'État, c'est vous. L'État, c'est vous, le quart d'heure mensuel de Sophie Broca, préfète d'Eure-et-Loire.
Bonjour à toutes et à tous, à chacun et à chacune. Bienvenue dans votre émission L'État, c'est vous, qui nous donne chaque mois des nouvelles de l'action de l'État dans les territoires. Et celle qui nous donne ces nouvelles est idéalement placée pour le faire, puisqu'il s'agit de Madame Sophie Broca, préfète d'Eure-et-Loire. Madame Broca, bonjour et merci de vous rendre disponible une fois par mois pour nos auditeurs. Je sais que vous avez un agenda qui est très chargé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la lutte contre la radicalisation islamiste. Alors, voici déjà, ma foi, quelque temps qu'il n'y a pas eu d'attentat sur notre territoire. Il faut évidemment s'en réjouir. Peut-être, alors je dis peut-être par crainte du mauvais œil, mais peut-être que les dispositifs de lutte contre la radicalisation mis en place par l'État commencent à faire leur effet. Alors cette lutte au jour le jour contre les funestes projets des terroristes, mais aussi contre les progrès de l'idéologie islamiste, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui avec vous, Sophie Broca. On va peut-être commencer par parler de prévention. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour lutter pour une prévention contre l'islamisme?
Bonjour. Effectivement, je crois que la prévention est essentielle. Pourquoi? Parce que la menace est réelle. La menace est encore élevée. Et probablement qu'il nous faudra apprendre à vivre avec cela. Alors, la prévention, c'est absolument indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est essayer de passer des messages de paix, de compréhension, de développement de l'esprit critique, de mise en alerte auprès de public, de partie de la population qui pourrait, le cas échéant, être plus fragile, plus vulnérable, plus incité à entendre les sirènes d'une idéologie funeste, de mort, vous l'avez dit, mais qui au fond donne une vision assez simple et assez manichéenne de la vie de la société, les gentils et les méchants, les pieux et les mécréants, voilà. Donc la prévention, c'est vraiment important, c'est vraiment important. Alors, nous avons plusieurs fers au feu, plusieurs outils. D'abord, auprès des femmes, on a tenté une expérimentation en considérant que les femmes, elles pouvaient être des vecteurs de paix, des ambassadrices de paix, et que en s'appuyant sur des femmes des quartiers populaires et en les aidant à réfléchir à cette question de l'embrigadement djihadiste, elles pourraient être des ambassadrices auprès des jeunes, auprès des adolescents. Peut-être qu'elles pourraient, si on les y aidait, avoir des échanges avec des jeunes filles, par exemple, pour qu'elles ne tombent pas amoureuses sur Internet d'un prince charmant en Syrie qui leur promet monts et merveilles et qui, en vérité, va les enfermer, voiler et leur faire des enfants en les maltraitant si jamais elles cédaient aux sirènes. Ces femmes, ces figures positives, elles peuvent aussi parler aux jeunes garçons pour leur dire que ça n'est pas un objectif en soi de vouloir tuer, que ce n'est pas comme ça qu'on montre sa virilité. Donc faire de ces femmes des quartiers, des ambassadrices de la paix, pour cela nous avons organisé une série de rencontres et de débats autour de plusieurs films. Donc ces femmes sont venues pendant plus de 6 mois aux Enfants du Paradis et autour d'une série du film qui traite de la question des femmes dans l'espace public, du djihad, des femmes seules qui doivent élever leurs enfants. On a pu nouer des débats et j'espère que avec ce travail-là, ces prises de conscience qu'elles ont faites et dont elles sont très heureuses, on pourra donc avoir ces vecteurs de paix dans les quartiers. Autre exemple d'action de prévention, nous avons, et c'est une première en France, organisé ici à la préfecture pendant 5 mois une formation universitaire aux valeurs de la République et à la laïcité. Ces valeurs de la République et la laïcité, il faut absolument que chacun comprenne, y compris ceux qui sont pieux et surtout ceux qui sont pieux, qui ont une vie spirituelle intense, que ces valeurs ne sont pas conçues pour les empêcher de croire. Au contraire, elles ne sont pas une arme dirigée contre les croyants, mais bien un bouclier pour garantir à chacun dans ce pays la liberté de conscience, de croire, de ne pas croire, et notre capacité à vivre ensemble dans cette différence, dans la paix, dans l'harmonie, sans s'agresser mutuellement. Et donc nous avons engagé cette formation universitaire avec des professeurs de l'université de Tours qui sont venus durant 6 samedis donner des cours approfondis à une vingtaine d'imams et de responsables d'associations culturelles. Et ça donnera lieu à la remise d'un certificat universitaire le 24 janvier prochain à la préfecture, à l'hôtel de Ligneris, en présence du président de la Fondation pour l'Islam de France, Jean-Pierre Chevènement, et du président de l'Université de Tours. Voilà. Donc ça, c'est une autre action de prévention. Il faut que les imams soient aussi nos ambassadeurs dans leur prêche, qu'ils expliquent que la laïcité, ce n'est pas l'interdiction de croire et de vivre sa foi, mais c'est la nécessité de la vivre sans gêner les autres.
Espace privé, espace public, la distinction entre les deux.
Absolument. Avec l'éducation nationale, une autre action, un autre exemple d'action de prévention que nous menons, les enfants qui sont scolarisés à domicile doivent être déclarés auprès du maire de la commune, c'est la loi, puisque l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans et demain et bientôt jusqu'à 18 ans, les enfants qui sont scolarisés à domicile, qui peuvent l'être pour des tas de raisons, un enfant malade, un enfant sportif, un choix familial, ça peut être aussi le signe d'une famille radicalisée qui ne veut pas que son enfant se mélange aux autres et puisse être dévoyé. Alors nous organisons des visites systématiques de l'inspection de l'éducation nationale à domicile pour vérifier que les enseignements qui sont donnés à l'enfant sont bien conformes au programme de l'éducation nationale, et on regarde les livres, est-ce que les acquis sont faits, etc. Et si ça n'est pas le cas, nous intervenons. Un dernier exemple peut-être aussi d'autres actions de prévention. Nous organisons régulièrement, c'est-à-dire au moins 2 fois par an, au lycée Marceau à Chartres, des journées d'information et de sensibilisation aux risques terroristes, aux signaux faibles qui révèlent une radicalisation. Ces formations sont gratuites, elles sont organisées par l'unité de lutte antiterroriste qui vient de Paris pour cela, et ces formations s'adressent à la fois aux soignants, aux policiers, aux enseignants, mais aussi aux élus qui le souhaitent, mais aussi aux responsables de clubs sportifs où l'on sait qu'un certain nombre de personnes tentées par la radicalisation peuvent suivre des enseignements sportifs. Voilà, donc voilà un petit panel d'actions que nous menons pour la prévention et pour faire que nous ayons 1000 ambassadeurs de paix, 1000 ambassadeurs de nos valeurs républicaines qui nous permettent de vivre ensemble un peu partout sur le territoire, pour qu'on ait des gens avertis qui repèrent quand il y a quelqu'un qui est en train de basculer du mauvais côté, du côté obscur, voilà, et qu'ensemble, c'est par un réseau dense comme ça d'intermédiaires, de représentants, d'ambassadeurs, que nous serons plus efficaces.
Est-ce que vous avez le sentiment que l'idéologie islamiste est en recul ? Je me souviens d'un sondage il y a quelques années disant, faisant état que finalement il y avait pas mal de musulmans, 30% je crois, des musulmans sur le territoire français, qui finalement préféraient la charia à la loi républicaine. Est-ce que là, il y a un travail à faire de fond, quoi, je veux dire, sur les rappels de ce qu'est la loi républicaine. Vous en avez parlé à l'instant, c'est évidemment très important, quoi.
Voilà, alors il y a toutes ces actions de prévention sur lesquelles on essaie d'être très actif, inventif, pour éviter que des gens qui sont à un moment dans une fragilité dans leur vie, pour des raisons professionnelles, personnelles, affectives, puissent au fond se dire que effectivement la charia, c'est une façon de vivre qui est beaucoup plus simple et qui leur donne une image positive d'eux-mêmes. Tout d'un coup, ils deviennent des chevaliers blancs d'une religion pure. Ça n'est pas acceptable pour nous. On ne peut pas, enfin, ce pays n'acceptera jamais que les femmes soient tenues à la maison, soient obligées de se vêtir ainsi et pas ainsi, que la loi du plus fort remplace la loi de la République. Tout ça, évidemment, ça n'est pas possible. Au-delà de la prévention, quand quelqu'un, hélas, a basculé dans une lecture radicalisée de sa religion, eh bien, nous le suivons. Donc là-dessus, nous sommes aussi très investis, très actifs. Et même si, grâce au ciel, il y a eu moins d'attentats dans notre pays en 2018, eh bien, il faut aussi savoir que les services de police, de renseignement sont efficaces et arrivent à démanteler, grâce au travail de renseignement, d'information, de suivi, de visite domiciliaire, etc., arrivent à démanteler des réseaux avant qu'ils ne passent à l'acte. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'action que nous menons à l'égard des gens qui ont basculé dans la radicalisation, il y a d'abord une réunion hebdomadaire, donc chaque semaine ici à la préfecture, qui associe les services de police, de gendarmerie et aussi de renseignement, sous ma présidence. Donc personnellement, je veille à ça chaque semaine avec la directrice du cabinet. Et donc là, nous avons un certain nombre de personnes dans notre scope qui ont une approche très radicalisée, c'est-à-dire c'est pas une approche pieuse. Quelqu'un qui va respecter de manière très stricte les préceptes du Coran, c'est pas forcément quelqu'un qui nous dérange et qui est dangereux. Ceux qui nous dérangent, c'est ceux qui veulent imposer leur vision aux autres, y compris par la force, d'abord dans leur cercle intime, avec les enfants, avec les épouses, et puis au-delà, dans le travail. Ça n'est pas acceptable qu'un salarié oblige les autres à la prière alors qu'ils ne sont pas forcément croyants. Ça n'est pas normal qu'un homme refuse de serrer la main d'une femme dans notre pays, ou refuse de s'asseoir sur une chaise qu'elle vient de quitter. Voilà, c'est tout ça que nous ne pouvons pas accepter. Donc ces gens-là, on les suit semaine après semaine, on regarde comment ils évoluent, qui ils voient, est-ce qu'ils sont toujours aussi présents dans les presses, qu'est-ce qu'ils racontent, etc. Et puis, une fois par mois, nous avons une cellule élargie à laquelle assiste personnellement Monsieur le procureur de la République, Rémy Coutin, mais aussi l'éducation nationale, mais aussi le monde de la santé, hein, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup, c'est compliqué, c'est pour ça que les choses ne sont pas simples. Il y a aussi des gens qui sont radicalisés, mais qui présentent d'abord et surtout des pathologies psychiatriques, mentales, et qui ont trouvé dans la religion une façon de se contenir eux-mêmes. Mais voilà, donc on
c'est un travail de titan, hein, excusez-moi, mais vraiment, on peut rendre hommage d'ailleurs au travail des forces de police et ou de gendarmerie, du renseignement, parce qu'on imagine que c'est vraiment un travail à la fois de titan et de fourmi, quoi.
Oui, c'est ça, c'est un travail de bénédictin où il faut à la fois beaucoup de constance, du recul, il ne faut pas paniquer. Il faut savoir faire la part des choses entre un comportement radicalisé mais sans intention agressive, un exercice de très pur et très puriste de sa religion, et une intention agressive. Voilà. Donc oui, il faut saluer le travail des services de l'État. Évidemment, le centre de détention est à nos côtés aussi, hein, pour ces questions, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en prison pour des raisons liées à cette radicalisation, ou qui peuvent, dans ce lieu, qui est un lieu d'enfermement, être tenté et se convertir parce qu'il y a là des pasteurs de mort. Voilà, je voudrais dire aussi qu'on va proposer au maire du département une convention pour pouvoir échanger dans un cadre, dans une charte de confidentialité, des informations, eux vers nous quand ils ont des doutes, et nous vers eux pour leur dire ce que nous faisons. Voilà.
Merci beaucoup, Sophie Broquin. Je vous dis à dans un mois pour une nouvelle édition de L'État, c'est vous. Et chers auditeurs et auditrices, restez à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.